dernière séance sur les réflexions sur la tolérance. Voilà. Donc, consacrer cette séance à Spinoza, nous faisons une lecture du traité théologico-politique qui a été rédigé, enfin, qui a été publié en 1670, anonymement. C'est la seule œuvre que Spinoza ait publiée de son vivant. Ça lui a valu d'ailleurs bien des problèmes. On en reparlera. Alors, vous avez le plan avec vous. Et puis, vous avez aussi les textes sur lesquels je vais m'appuyer. Alors, je vais consacrer un peu de temps tout de même à la biographie de Spinoza et situer l'auteur historiquement tout de même. Ça vaut la peine. C'est pour ceux qui sont à Philopop depuis des années, c'est le premier auteur que nous ayons lu. Voilà. Alors, Baruch Spinoza, Baruch, c'est son prénom. Baruch Spinoza est né en 1632 et il est mort en 1677 de la tuberculose, je crois. Il est le fils d'un marchand juif d'Amsterdam. Il est issu d'une famille juive originaire du Portugal qui a été contrainte de fuir la péninsule ibérique. Il faut ici rappeler qu'au moment où le royaume de Grenade tombe aux mains des rois catholiques en 1492, eh bien, ceux-ci prononcent un édit d'expulsion des juifs. Alors, où ceux-ci acceptent de se convertir à la religion chrétienne, où ils doivent partir. Alors, de nombreux juifs qui sont là depuis des générations et des générations, sont là depuis vraiment très très longtemps, dans la péninsule ibérique, eh bien, de nombreux juifs vont choisir d'abord de rester en Espagne ou au Portugal. Ils se convertissent donc à la religion catholique tout en continuant à pratiquer leur foi en cachette. Et comme ils vont être soupçonnés par les chrétiens de ne pas être sincèrement de vrais chrétiens, on les appelle des maranes, eh bien, ils vont subir de plus en plus de persécutions et nombreux sont ceux qui vont devoir quitter la péninsule ibérique par la force des choses. Alors, la famille de Spinoza est dans ce cas. Et il y a à Amsterdam, en ce début du XVIIe siècle, une importante colonie de juifs venant d'Espagne et du Portugal qui ont été, au fond, contraints de s'enfuir pour les mêmes raisons. Alors, ils sont d'autant mieux accueillis dans les Provinces Unies. Et la province la plus importante des Provinces Unies, c'est la Hollande. Donc, ils sont d'autant mieux accueillis dans les Provinces Unies que celles-ci ont dû combattre pendant près d'un siècle pour obtenir leur indépendance et se libérer de la tutelle de l'Espagne. Parce que les Provinces Unies étaient sous la coupe de l'Espagne. Alors, c'est en 1600, que s'établit à Amsterdam le grand-père du jeune Baruch, après un bref séjour à Nantes. Et vous voyez que, dès le départ, donc la vie de Spinoza est marquée par le problème de l'intolérance. Alors, le XVIIe siècle est l'âge d'or des Provinces Unies. Amsterdam détient la plus grande banque du monde. C'est la plus grande place financière. Et elle est aussi le port de commerce le plus important. Les Provinces Unies, d'ailleurs, de manière générale, jouissent d'une grande prospérité. Alors, on a parlé du siècle d'or des Provinces Unies au XVIIe siècle. C'est également une terre d'asile où trouvent refuge les savants, les philosophes, qui subissent partout ailleurs en Europe des persécutions, qui craignent d'en subir. Il faut savoir que Descartes a vécu une grande partie de sa vie, je crois une vingtaine d'années, dans les Provinces Unies. Ce n'est pas un philosophe français, c'est un philosophe belge. On pourrait dire ça, si vous voulez. Non mais, trêve de plaisanterie, vous voyez que Descartes, effectivement, a préféré s'exiler hein, pour échapper à toutes sortes d'ennuis hein, qui pouvaient accabler à ce moment-là, effectivement, les savants. Alors, il faut se rappeler, d'ailleurs, qu'au XVIe siècle et au XVIIe siècle, l'Europe est plongée dans les guerres de religion, dans les persécutions. On connaît le fameux massacre de la Saint-Barthélemy à la fin du XVIe siècle, hein, qui ravage Paris. Et contrairement au reste de l'Europe, eh bien, les provinces unies bénéficient d'un certain climat de tolérance religieuse. L'indépendance des provinces unies a permis d'instaurer une république qui reconnaît le pluralisme religieux. Il n'est pas interdit d'être catholique. Et pourtant, Dieu sait que les Hollandais ont dû souffrir. Hein. La chape de plomb hein, des rois catholiques d'Espagne. Hein. Bon. Les Juifs ont la possibilité de pratiquer leur culte. Donc vous avez une pluralité religieuse qui est exceptionnelle. Vous voyez ? Alors, d'ailleurs, Spinoza tient à saluer dans la préface du traité théologico-politique et aussi à la fin, dans le chapitre 20, la fameuse République d'Amsterdam. Vous avez ici, je vais vous renvoyer au texte que j'ai photocopié, vous avez un premier extrait. Vous voyez par exemple la feuille 1, au bas de la page, à gauche, à partir de la ligne 56, lisons, à partir de la ligne 56. « Puis donc que ce rare bonheur nous est échu de vivre dans une république où une entière liberté de juger et d'honorer Dieu selon sa complexion propre est donnée à chacun, et où tous tiennent la liberté pour le plus cher et le plus doux des biens. J'ai cru ne pas entreprendre une œuvre d'ingratitude ou sans utilité en montrant que non seulement cette liberté peut être accordée sans danger pour la piété et la paix de l'État, mais que même on ne pourrait la supprimer sans détruire la paix de l'État et la piété. » Donc vous avez ce premier passage. Et puis à la fin, tout à la fin du livre aussi, ligne, enfin là c'est au chapitre 20, donc là vous prenez la feuille numéro 3, en bas à gauche, à nouveau, vous voyez, j'ai souligné que la ville d'Amsterdam, vous voyez, on va commencer la lecture ici, « Que la ville d'Amsterdam nous soit en exemple, cette ville qui, avec un si grand profit pour elle-même et l'admiration de toutes les nations, a goûté les fruits de cette liberté. Dans cette république très florissante, dans cette ville très éminente, des hommes de toute nation et de toute secte vivent dans la plus parfaite concorde et s'inquiètent uniquement pour consentir un crédit à quelqu'un, de savoir s'il est riche ou pauvre et s'il a accoutumé d'agir en homme de bonne foi ou en fourbe. » Bon, faites de même attention. Bon. Alors, donc, vous voyez, comme je vous l'ai dit, Spinoza est conscient tout de même du caractère exceptionnel hein, de la République d'Amsterdam et de la fragilité de la tolérance qui y règne. Et il faut bien sûr savoir ici que cette tolérance est menacée par les prétentions hégémoniques des calvinistes orthodoxes qui souhaiteraient en finir avec la République et mettre en place une monarchie autoritaire. Et bien sûr intolérante. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils parviendront à faire en faisant revenir au pouvoir la dynastie des princes d'Orange. Et à la fin de la vie de Spinoza, ça va mal tourner. Hein. Et la République va tomber. La monarchie va être instaurée. On aura un régime fort et intolérant. Et au fur et à mesure de l'existence de Spinoza, il va voir l'intolérance montait de plus en plus. Alors, donc, la tolérance est fragile. Et elle ne règne pas non plus à l'intérieur de la communauté juive, à laquelle appartient la famille Spinoza. Oui, après, il y a eu des affaires. Alors, je recommande d'ailleurs, si ça vous intéresse, de lire ce livre, être juif à Amsterdam au temps de Spinoza, chez à l'édition, à éditeur Albin Michel, hein, de Henri Méchoulan. C'est un livre vraiment intéressant, facile à lire, hein, très rapide, qui est très très instructif, hein, sur la question. Donc Spinoza, famille juive, hein, qui va à la synagogue, le père d'ailleurs a des responsabilités à la synagogue, hein. Mais le fils, disons, est plutôt un libre penseur. Et après un certain nombre, après surtout un grand intellectuel qui s'appelle Uriel da Costa, et avant un autre grand intellectuel qui s'appelle Juan de Prado, eh bien Spinoza va être excommunié en 1656. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait mis en cause la révélation. Alors un herem, c'est le mot hébreu, hein, qui est utilisé, un herem, c'est-à-dire au fond un décret d'excommunication. Un herem est prononcé par la synagogue à son encontre. Il lui est interdit d'avoir le moindre contact avec les membres de la communauté et avec sa famille. Il doit renoncer au commerce. Et il doit déménager hors du quartier juif. Là, les communications, c'est quelque chose de radical, hein, à l'époque. Hein. Bon, si on vous fréquente, vous risquez des problèmes. Enfin, les personnes qui vous fréquentent risquent plutôt des problèmes. Alors, les rabbins demandent aux autorités civiles d'Amsterdam l'expulsion de Spinoza hors de la ville. Les autorités vont résister, parce qu'elles ont plutôt une certaine sympathie, elles ont plutôt une certaine sympathie pour Spinoza. Et ce n'est qu'au bout de 5 ans, sous la pression conjuguée des rabbins et des calvinistes orthodoxes, que Spinoza sera contraint de quitter Amsterdam. Donc, il s'en va, et il va s'établir dans un petit village qui s'appelle Ringsburg, près de la ville de Leyde, où il va gagner sa vie en polissant des verres. C'est une technologie de pointe à l'époque. Hein. Et c'est là qu'il fréquente les membres d'une secte protestante libérale, qui s'appelle les collégiens, qui ne reconnaissent pas hein, l'autorité de l'église calviniste officielle, et qui ont été chassés d'Amsterdam. Et c'est par leur intermédiaire que Spinoza prend connaissance de la religion chrétienne. Et puis aussi, il fréquente parmi eux des gens qui ont lu Descartes. J'oubliais de dire que, dans sa jeunesse, Spinoza avait suivi tout de même l'enseignement d'un certain von den Enden, un jésuite défroqué, qui lui avait enseigné la philosophie de Descartes. Et il avait initié au latin. Hein, cet homme a eu une grande influence. Alors donc, c'est à Ringsburg que Spinoza commence à rédiger sa philosophie. C'est là qu'il commence à rédiger ses premières œuvres philosophiques. Et d'ailleurs, les premières œuvres philosophiques sont consacrées à un commentaire de Descartes, les principes de la philosophie de Descartes. Et c'est là aussi qu'il commence une correspondance importante avec de nombreuses personnalités du monde scientifique, parmi lesquels, je les cite, hein, j'en cite quelques-uns, vous avez des mathématiciens comme Oldenburg, Hude, Tschirnhaus, et Hude, il faut savoir qu'il est bourgmestre d'Amsterdam. Donc vous voyez, il a une correspondance assez importante, et je dirais qu'il a une grande valeur philosophique. Hein. Alors, comme je disais, ses premiers travaux sont consacrés aux commentaires de la philosophie de Descartes, dont il est un grand admirateur. Descartes, c'est vraiment la référence. D'ailleurs, on dit de Spinoza, de tous les philosophes qui viennent après Descartes au XVIIe siècle, qui sont des cartésiens. Alors, ça ne veut pas dire que Spinoza, évidemment, est en plein accord avec la philosophie de Descartes, mais c'est vrai que, d'une certaine façon, il en est l'héritier. Spinoza va quitter Ringsburg, il va déménager à Wartburg, dans la banlieue de La Haye, en 1663, puis il ira ensuite à La Haye en 1669. Et c'est là qu'il reçoit la visite d'un éminent philosophe, grand monstre de la philosophie, qui s'appelle Leibniz, éminent mathématicien et philosophe. Leibniz est très curieux, il voudrait savoir qui est Spinoza, il a entendu parler Spinoza. Il vient le voir, et c'est là que, lors de sa visite, Spinoza lui aurait montré un manteau percé d'un coup de couteau, le coup de couteau d'un fanatique. C'est dire l'ambiance de l'époque. Spinoza est traqué, hein, il est soupçonné d'athéisme. Vous voyez ? Bon. Alors cet épisode indique le climat politique de l'époque et qui devient de plus en plus lourd, de plus en plus hostile, de plus en plus intolérant en Hollande. Et je répète, la grande accusation qui est lancée, qui est portée contre Spinoza, c'est l'accusation d'athéisme. Un athée, c'est pas simplement quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est quelqu'un qui est soupçonné d'immoralité, vous voyez. Bon. D'ailleurs, deux de ses amis, les frères Korbag, sont arrêtés en 1668 en raison d'une publication qui est jugée blasphématoire. Alors, c'est en réaction à ce contexte que Spinoza délaisse temporairement la rédaction de son livre le plus important, qui s'appelle L'Éthique, qu'il a commencé en 1662, pour écrire le traité théologico-politique dont je vais vous parler. Il commence sa rédaction en 1665 et cette œuvre paraîtra en 1670. Elle est publiée de son vivant, mais évidemment de manière anonyme. Donc on reconnaît très vite que c'est bien sûr Spinoza. Alors elle est très rapidement interdite. Et dans une lettre adressée en 1665 à son ami Oldenburg, Spinoza explique son projet. Pourquoi écrire ce traité ? Alors voilà ce qu'il écrit. Je compose actuellement un traité sur l'écriture, c'est-à-dire sur la Bible. Et en voici les raisons. Premièrement, les préjugés des théologiens, je sais en effet que ce sont eux surtout qui empêchent les hommes d'appliquer leur âme à la philosophie. Je m'efforce donc de dévoiler ces préjugés et d'en débarrasser les esprits les plus avertis. Deuxièmement, l'opinion qu'a de moi le public, qui ne cesse de m'accuser d'athéisme. Je suis contraint de la combattre le plus possible. Troisièmement, la liberté de philosopher et de dire notre sentiment, je désire la défendre par tous les moyens, car elle est supprimée par le prestige et l'insolence abusive des prédicants. Voilà les raisons pour lesquelles Spinoza va écrire le traité théologico-politique. Et si vous regardez le sous-titre de l'ouvrage, alors je l'ai photocopié, feuille numéro 1, si vous regardez le sous-titre de l'ouvrage, eh bien vous avez exactement son objet. Voilà pourquoi le traité théologico-politique est écrit, pour montrer que la liberté de philosopher, on peut dire la liberté de penser, la liberté de philosopher non seulement peut être accordée sans danger pour la piété et la paix de l'État, mais même qu'on ne peut la détruire sans détruire en même temps la paix de l'État et la piété elle-même. Voilà. Voilà l'objet du traité théologico-politique. C'est en haut, à gauche, feuille numéro 1. C'est là que vous avez l'objet de ce traité. Alors, mon propos ce soir, évidemment, on va tenir compte de ce sous-titre, du sous-titre de l'ouvrage, puisque c'est là que se trouve exprimé, au fond, le projet de Spinoza. Et alors, qu'est-ce que je ferai ? Je montrerai d'abord que l'intolérance est un danger pour la piété, un danger pour la religion. Elle dénature la religion. Elle pervertit l'écriture. Elle pervertit l'écriture en se prévalant de son autorité. Et évidemment, elle se prévaut, les théologiens se prévalent de son autorité pour imposer aux hommes des dogmes qui sont uniquement de leur invention. Donc, dans un premier temps, il nous faudra examiner cette situation un peu étrange, hein, et il faudra que nous comprenions les causes et les conséquences de l'intolérance. Ce sera la première partie. Dans une seconde partie, je montrerai comment Spinoza va détruire les préjugés des théologiens. Et il va détruire ces préjugés en élaborant une méthode d'interprétation de l'écriture qui permette d'en éclairer le véritable sens. C'est la première fois que un philosophe élabore, au fond, une méthode qui permette de lire la Bible, je dirais, de manière rationnelle. Il sera ainsi possible de lever la confusion que ne cessent de faire les théologiens entre la foi, dont nous verrons qu'elle a un contenu moral, dont nous verrons qu'elle a un contenu uniquement moral, et puis la vérité. Hein, il faudra lever la confusion entre la foi et la vérité. Et nous verrons que la religion n'a pas pour but d'enseigner la vérité. La religion, elle a un contenu moral, un contenu essentiellement moral. Elle concerne la pratique. Troisième chose, dernière partie, nous verrons enfin que l'intolérance n'est pas seulement nuisible pour la piété, mais elle l'est également pour la paix de l'État. Un État intolérant qui réprime la liberté d'opinion est un État faible, qui risque d'ailleurs de se détruire en favorisant en son sein de graves dissensions. Et au contraire, un État est d'autant plus fort, il assure d'autant mieux la paix civile qu'il garantit la liberté de penser et s'appuie même sur elle. Alors, cette dernière partie, je l'ai déjà annoncée par avance, je ne pourrais pas trop la développer, je la présenterai de façon un peu schématique, hein, si vous voulez, pour que l'exposé soit complet, mais je ne pourrais pas trop développer. Hein. Je vais surtout m'occuper des deux premières parties. Alors, voilà comment, dans la préface du traité théologico-politique, Spinoza explique les causes qui l'ont poussé à écrire son traité. Alors, je vous invite ici à prendre la première feuille, colonne de droite, à partir de la ligne 80. Voilà, c'est là qu'il explique les causes qui l'ont poussé à écrire. J'ai vu maintes fois, avec étonnement, des hommes fiers de professer la religion chrétienne, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la continence et la bonne foi envers tous, se combattre avec une incroyable ardeur malveillante et se donner des marques de la haine la plus âpre, si bien qu'à ces sentiments, plus qu'aux précédents, leur foi se faisait connaître. Donc, il décrit une véritable perversion de la religion, une véritable dénaturation de la religion. Et c'est bien le spectacle qu'offre au XVIIe siècle, déjà avant, hein, au XVIe siècle, les chrétiens, hein, qui ne cessent de se combattre les uns les autres, en Europe. Et donc, évidemment, il en a aussi, à son époque, à Amsterdam, un peu le spectacle. Hein, même si c'est une ville un peu exceptionnelle, l'intolérance s'y manifeste aussi, hein, de la part des calvinistes orthodoxes. Donc, je répète, ici, ne pensez pas qu'il parle uniquement, si vous voulez, de l'inquisition catholique qui a sévi en Espagne. Ne pensez pas ça. Considérez qu'il pense aussi, qu'il parle aussi de ce qu'il voit au présent, hein, c'est-à-dire de ce qu'il voit avec, je dirais, l'intolérance des calvinistes orthodoxes, notamment. Donc tous ces chrétiens, quelle que soit au fond leur obédience, prêchent fièrement les vertus évangéliques, l'amour, la joie, la paix, la bonne foi, Mais cela ne les empêche pas de s'opposer les uns aux autres avec la haine la plus âpre. Aussi loin que la foi des chrétiens consiste dans l'amour du prochain, eh bien, elle consiste plutôt dans la haine à l'égard de ceux qui ne partagent pas les mêmes dogmes, les mêmes croyances. Et donc, c'est cet étonnant spectacle, si vous voulez, qui va susciter ici la réflexion et qui va pousser Spinoza à rédiger son traité. On observe aussi cet étonnant spectacle lorsqu'on voit la manière dont les chrétiens abordent l'écriture. Et c'est au début du chapitre 7 qu'il nous en parle. Alors ça, vous regardez la feuille numéro 2. La feuille numéro 2, en haut à gauche. En haut à gauche. Tout le monde dit bien que l'Écriture sainte est la parole de Dieu et qu'elle enseigne aux hommes la béatitude vraie ou la voie du salut. La conduite des hommes montre tout autre chose, car le vulgaire c'est l'opinion commune, la foule, hein, si vous voulez, le vulgaire ne paraît se soucier de rien moins que de vivre suivant les enseignements de l'Écriture sainte. Et nous voyons que presque tous substituent à la parole de Dieu leurs propres inventions et s'appliquent uniquement sous le couvert de la religion à obliger les autres à penser comme eux. Voilà. Voilà ce qui se passe. Et vous allez voir que la Bible est devenue un instrument de haine et de discorde. Elle est devenue un enjeu de pouvoir. Les uns et les autres prétendent être les détenteurs de la vérité de son enseignement et invoquent la sacralité du texte pour faire taire, évidemment, ceux qui en proposent une lecture différente. Alors que la Bible n'enseigne rien d'autre que la pratique de la justice et de la charité, comme on va le voir, eh bien, les hommes lui prêtent leurs propres inventions, leurs propres jugements arbitraires, et ils font passer, bien sûr, ces jugements, ces inventions, pour un enseignement divin, auquel il serait sacrilège de désobéir. Je continue ma lecture, si vous voulez, toujours le même texte, hein, vous voyez. Nous voyons, ligne 9, hein, nous voyons, dis-je, les théologiens inquiets, pour la plupart, du moyen de tirer des livres sacrés en leur faisant violence, leurs propres inventions et leurs jugements arbitraires, et de les abriter sous l'autorité divine. Le texte est très clair. Hein. Donc vous voyez que la religion, ainsi que le texte sacré sur lequel elle s'appuie, eh bien, la religion devient un véritable enjeu de pouvoir. L'essentiel n'est pas d'aimer son prochain, l'essentiel est d'avoir raison contre ceux qui ne partagent pas les mêmes dogmes. Et on a raison contre eux parce qu'on prétend invoquer pour soi l'autorité du texte sacré. Donc vous voyez que la foi ne se manifeste plus par des actes de justice et de charité, mais la foi consiste désormais à se conformer à ce qu'on prétend être la vraie religion, c'est-à-dire la religion dont les dogmes sont vrais, et en adoptant évidemment les discours et les rites qui conviennent, et à se démarquer de cette manière, de façon ostentatoire, de ceux dont la religion est fausse. Vous voyez ? C'est-à-dire que chacun cherche à s'approprier, au fond, la vraie religion. Chacun cherche à s'approprier le texte, hein ? Et chacun prétend qu'il a l'interprétation légitime du texte. Alors, si vous lisez ici un autre passage, c'est sur la feuille 1. La feuille 1, je reviens un peu à la préface, vous voyez, je croise les deux textes. Hein. En bas, attendez, où c'est la feuille 1 ? Oui, va. à droite, colonne de droite, ligne 86. Ligne 86. Voilà longtemps déjà, les choses en sont venues au point qu'il est presque impossible de savoir ce qu'est un homme, chrétien, turc, turc ça veut dire musulman, hein, évidemment, chrétien, turc, juif, ou idolâtre, sinon à sa tenue extérieure et à son vêtement, ou à ce qu'il fréquente, telle ou telle église, ou enfin à ce qu'il est attaché à telle ou telle opinion et jure sur la parole de tel ou tel maître. Donc ce qui compte désormais, en matière de religion, c'est le culte extérieur. C'est le culte extérieur, ce sont les signes d'une appartenance. C'est-à-dire que la religion devient essentiellement l'affaire d'une église, d'une communauté, comme on dit aujourd'hui, à laquelle il est essentiel de montrer qu'on se rattache par sa tenue extérieure, par son vêtement, ou par les paroles qu'on répète rituellement. Voilà ce qui compte, voilà ce qui est essentiel, voilà ce qui est tenu aujourd'hui pour essentiel. Alors comment expliquer, évidemment, cette dénaturation de la religion ? Comment expliquer qu'elle soit devenue, au fond, une affaire de communauté ? Une affaire identitaire, si oui. Je me permets l'expression. Comment expliquer qu'elle puisse engendrer l'intolérance à l'encontre des hommes qui ne partagent pas le même culte ? Première cause. La première cause, c'est l'ambition et l'avidité sordide de quelques hommes qui cherchent le moyen d'exercer une domination au sein de l'Église pour bénéficier de ses avantages. Alors, je t'explique. Quand la religion devient un enjeu de pouvoir, eh bien, il n'est pas étonnant que ce soit les hommes les plus méchants, l'expression est de Spinoza, hein, il n'est pas étonnant que ce soit les hommes les plus méchants qui cherchent à exercer les fonctions sacerdotales. Car elles sont l'occasion de recevoir des honneurs et puis des prébendes. Disons le texte, si vous voulez. Regardez, ligne 99. Ligne 99, colonne de droite, feuille numéro 1. Dès que cet abus a commencé dans l'Église, en effet, un appétit sans mesure d'exercer les fonctions sacerdotales a pénétré dans le cœur des plus méchants. L'amour de propager la foi en Dieu a fait place à une ambition et à une avidité sordide. Le temple même a dégénéré en théâtre. Le temple même a dégénéré en un théâtre où l'on entendit non des docteurs, mais des orateurs d'église, dont aucun n'avait le désir d'instruire le peuple, mais celui de le ravir d'admiration, de reprendre publiquement les dissidents, de n'enseigner que des choses nouvelles, inaccoutumées, propres à frapper le vulgaire étonnement. De là, en vérité, ont dû naître de grandes luttes, de l'envie et une haine que les années écoulées furent impuissantes à apaiser. Donc vous voyez que derrière les querelles théologiques, il y a des ambitions. Il y a des ambitions opposées. Chacun des théologiens, hein, parce que les hommes les plus méchants, en fait, c'est qui ? Ce sont les prêtres, les théologiens. Hein. Chacun des théologiens veut imposer sa doctrine pour conquérir un pouvoir sur les consciences. On a affaire à une lutte sans merci, où, au nom de Dieu et au nom du texte sacré, tous les cultes sont permis pour discréditer l'adversaire, pour le détruire. Hein, également. Donc, et ici, vous voyez que l'essentiel est d'impressionner le peuple, de le ravir d'admiration, comme dit Spinoza, afin d'exercer sur lui une influence. Hein. Et c'est en ce sens, je reprends l'expression de Spinoza, c'est en ce sens que le temple a dégénéré en un théâtre. Vous voyez ? Le temple a dégénéré en un théâtre car il est devenu le lieu d'affrontement des théologiens qui, à la manière des orateurs que fustigeait Socrate à Athènes, hein, ici il y a une allusion, hein, à la manière des orateurs que fustigeait donc Socrate à Athènes, eh bien, utilisent tous les artifices de la rhétorique pour produire leur effet. sur le peuple. Et il faut impressionner le peuple. Il faut arriver à voir pour soi, il faut arriver à le capter, à le captiver. Une chose est certaine, en tout cas, c'est que l'ambition des théologiens n'aurait pas d'efficacité si, justement, le peuple, si le vulgaire, comme dit Spinoza, si les hommes auxquels il s'adresse n'étaient pas enclins à la superstition. Parce que la cause première, si vous voulez, de cette situation, de cette dénaturation de la religion, c'est la superstition, à laquelle Spinoza consacre, disons, les premières pages du traité théologico-politique dans sa préface. C'est la superstition des hommes qui permet aux théologiens d'exercer une influence en flattant leur passion. Donc vous voyez que la véritable cause de l'intolérance religieuse, eh bien, c'est cette superstition que les théologiens n'inventent pas. Ce n'est pas eux qui inventent la superstition. Ils la trouvent, mais ils savent l'exploiter. Ils vont l'exploiter à leur profit. Et comme l'explique donc Spinoza dans la préface du traité théologico-politique, les hommes sont d'autant plus superstitieux qu'ils sont inquiets de l'avenir, qu'ils sont dans la crainte de l'avenir. Quand ils sont taraudés, vous voyez, par la crainte et l'insécurité, c'est le sentiment d'insécurité qui vous rend superstitieux. Hein ? Et nous sommes tous enclins, plus ou moins, à la superstition, dit Spinoza. Eh bien, quand nous sommes taraudés, vous voyez, par la crainte et le sentiment d'insécurité, eh bien, nous sommes prêts à adopter n'importe quelle croyance nouvelle, pourvu qu'elle nous apaise. C'est-à-dire, surtout dans les situations de panique, on est prêt à s'en remettre un peu à n'importe qui, hein, pour être calmé. Bon, alors, évidemment, plus ou moins, selon la manière dont on a été éduqué, plus ou moins, selon les objets sur lesquels portent nos désirs, hein. Mais c'est vrai que dans les situations de peur, hein, les situations d'insécurité, donc les hommes sont fortement superstitieux et ils sont prêts à suivre ainsi n'importe quel théologien, n'importe quel orateur d'église, hein, qui lui proposera une doctrine qui sera de nature à lui donner des certitudes et à calmer sa crainte. Vous voyez ? Donc, voilà ce qui va se passer. Hein, c'est que il y a un terreau favorable, hein, finalement, qu'il faut exploiter, que les théologiens, que les prêtres, que les églises vont chercher à exploiter, hein, pour exercer, au fond, un pouvoir, hein, sur les hommes. C'est ce fameux terrain, ce fameux terreau, c'est la superstition. Et la superstition conduit les hommes à mépriser la raison. C'est-à-dire que l'homme superstitieux ne fait pas confiance en la raison. Il ne croit pas qu'il peut compter sur elle pour comprendre le monde et éclairer sa conduite. Il préfère interpréter la réalité en fonction de ses angoisses. Il préfère imaginer ainsi que la nature obéit à des intentions surnaturelles. Il préfère croire au miracle. Vous voyez ? Et donc, il va imaginer, il m'imagine volontiers, que Dieu exprime sa volonté à travers les événements heureux ou malheureux qui lui arrivent. Il croit alors possible d'infléchir la volonté de Dieu en sa faveur, en obtenant sa bienveillance par des prières, par des rites appropriés. Vous voyez, c'est-à-dire que si je résume ce qu'il en est de la superstition, elle est à la fois la croyance en une révélation particulière de Dieu qui s'adresse aux hommes par des signes, comme par exemple les miracles, et elle est aussi un système de conduite destiné à obtenir de Dieu des faveurs. Vous voyez, c'est une croyance, on croit que Dieu parle à travers les événements, hein. Et pour obtenir sa faveur, eh bien, on va se livrer à un certain nombre de pratiques rituelles. Et c'est pour ça que, si vous voulez, les hommes superstitieux vont accorder beaucoup d'importance au culte. Parce que le culte va pouvoir calmer leur anxiété. Or, en faisant croire aux hommes que l'Écriture est un texte sacré, dont le sens est surnaturel. C'est-à-dire qu'il y a une très jolie formule de Spinoza au début du chapitre 12, où il dit, je vais vous la chercher, il dit la chose suivante, et c'est tout à fait significatif de la lecture superstitieuse que les hommes peuvent avoir ici de la Bible. Et voici ce que dit Spinoza. « Ceux pour qui la Bible, telle qu'elle est comme une épître de Dieu envoyée du ciel aux hommes, ne manqueront pas de clamer que j'ai commis le péché contre le Saint-Esprit, etc. etc. » Vous voyez, c'est-à-dire qu'au fond, les hommes superstitieux, et les théologiens, bien sûr, qui les maintiennent dans la superstition, eh bien, présentent la Bible comme, au fond, une sorte d'épître de Dieu directement envoyée du ciel aux hommes. Hein. Voilà comment la Bible est présentée. Et donc, puisque la vérité vient d'en haut, eh bien, elle est nécessairement mystérieuse, vous comprenez. Elle est surnaturelle. Elle est au-delà de la raison. Il faut être inspiré par l'Esprit Saint, hein, pour comprendre les profonds mystères du texte. Vous voyez ? Donc, les théologiens vont, pour un certain nombre d'entre eux, encourager une lecture superstitieuse du texte. On va vénérer le texte, hein, comme si on vénérait une relique, en fait, hein, de la même manière. Hein. Et c'est de cette façon, évidemment, que les théologiens vont s'approprier la Bible pour, évidemment, faire valoir leur interprétation et exercer leur pouvoir. Hein. Alors, vous avez un texte ici que l'on peut lire, c'est feuille 2. Feuille 2, à gauche, ligne 37. Ligne 37. À ces mots, vous voyez, ça résume tout ce que je viens de vous dire. À ces mots se joignit la superstition, qui enseigne à mépriser la nature et la raison, à admirer et à vénérer cela seulement qui leur contredit, par exemple les miracles. Aussi n'est-il pas surprenant que les hommes, pour mieux admirer et vénérer davantage l'Écriture, se soient attachés à l'expliquer de telle sorte qu'elle semble plus contraire qu'il se puisse à cette même nature et à cette même raison. Ainsi en vient-on à rêver que de très profonds mystères sont cachés dans les livres saints, et l'on s'épuise à les sonder, négligeant l'utile pour l'absurde. Et tout ce qu'on invente dans ce délire, on l'attribue à l'Esprit Saint, et l'on tâche de le défendre de toutes ses forces avec l'ardeur de la passion. Et donc, une lecture qui exclut toute approche raisonnable, toute approche rationnel. Hein. Et donc, en dénaturant la religion, hein, vous voyez, la superstition, non seulement elle permet aux théologiens d'exercer une emprise idéologique sur les hommes, mais elle favorise aussi, comme nous allons le voir, elle favorise également l'existence et le maintien des états despotiques. Et ça, c'est aussi un autre point très important. Comme l'explique Spinoza dans la préface du traité théologico-politique, d'ailleurs en se référant à une citation qui vient d'un historien latin qui s'appelle Quinte Curs, la superstition est le moyen le plus efficace de gouverner la multitude. Le moyen le plus efficace de gouverner la multitude. C'est-à-dire que si le pouvoir politique, et ici, il ne peut s'agir que d'un pouvoir despotique. Si le pouvoir despotique, hein, si le pouvoir politique parvient à capter et à stabiliser la superstition des hommes à son profit, alors il peut effectivement exercer sur eux une domination durable, une domination efficace. Mais pour cela, il a besoin d'une religion. Pour cela, il faut une religion. Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, pourvu qu'elle soit encadrée par un clergé, supposé connaître la volonté divine, et chargé de soumettre les hommes à la scrupuleuse et constante observance d'un culte. Vous voyez ? C'est-à-dire que le pouvoir politique a besoin de s'appuyer sur une Église qui lui donne son onction, hein, qui le reconnaisse comme le seul pouvoir légitime. Donc il a besoin de s'appuyer sur l'Église, hein, qui lui donne son onction, et aussi qui stabilise la superstition en la fixant et en la ritualisant sous la forme d'un culte. Je lis ici ce passage. Alors, attendez, c'est dans la préface. Comment dire ? Je ne sais plus où je l'ai mis. Oui, c'est feuille 1, je pense. Oui, c'est ligne 25. Ligne 25. Lisons ce passage. Colonne de gauche. Alors, commençons même un peu avant. Ligne 20. Ligne 20, hein, ce sera mieux. Comme Quintecurse en a fait très justement la remarque, nul moyen de gouverner la multitude n'est plus efficace que la superstition. Par où il arrive que l'on induit aisément, sous couleur de religion, vous voyez, toujours sous couleur de religion, tantôt à adorer les rois comme des dieux, tantôt à les exécrer et à les détester comme un fléau commun du genre humain. C'est-à-dire qu'il se trouve que la superstition, elle est inconstante, puisque au fond, le moteur de la superstition, c'est la crainte. Or, quand la crainte est apaisée, la superstition baisse, vous voyez. Mais si la crainte augmente, la superstition augmente, mais elle va vouloir être apaisée peut-être par une nouvelle croyance. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que la superstition, si vous voulez gouverner, hein, les hommes en vous servant de la superstition, il faut que vous arriviez à la stabiliser, à faire que à la capter de telle sorte qu'il vous soit fidèle, en quelque sorte. Alors, comment faire? C'est là que la religion est efficace, c'est là que la religion est utile. Parce que sinon, aussitôt adoré, vous risquez d'être brûlé le lendemain. Donc, il faut arriver, vous voyez, à, en quelque sorte, maintenir la superstition en votre faveur. Alors, c'est pour ça que je continue le texte. Hein. Pour éviter ce mal, ligne 25, hein, pour éviter ce mal, on s'est appliqué avec le plus grand soin à entourer la religion, vraie ou fausse, peu importe, d'un culte et d'un appareil propre à lui donner dans l'opinion plus de poids qu'à tout autre mobile, et à en faire pour toutes les âmes l'objet du plus scrupuleux et plus constant respect. Voilà, voilà ce qu'il faut arriver à faire. Hein. Et sur ce point, ben, si je donne des conseils à un prince despotique, voilà ce qu'il a intérêt à faire, si vous voulez. Hein. Alors, sur ce point, le modèle de l'État qui gouverne le mieux grâce à la superstition, eh bien, c'est l'État turc, l'État ottoman. Pourquoi? Parce que dans l'État ottoman, la discussion même, comme dit Spinoza, la discussion même passe pour sacrilège. C'est-à-dire que dans un tel État, il ne peut même pas y avoir d'hérésie, il ne peut même pas y avoir de dissidence, puisque de toute façon, il n'est jamais possible de discuter. Puisque le principe même de la discussion apparaît comme une offense à la religion. Vous voyez? Donc, évidemment, dans un tel État, ça marche bien. Hein, il ne peut pas y avoir de liberté de pensée. Hein. La liberté de pensée est anéantie par les dispositions du culte. Vous voyez, qui maintiennent une obéissance parfaite. Vous voyez, une soumission impeccable. Hein. Et évidemment, comment obtenir cette soumission? Par une sorte d'observance permanente du culte. Vous voyez, une scrupuleuse et une constante observance du culte par les sujets. Alors voilà un exemple important, significatif. Et cet exemple montre évidemment aussi, a contrario, que la liberté de pensée n'est un danger que pour un État despotique. Que pour un État despotique, parce que seul un État despotique a intérêt à ce que la religion soit ainsi dénaturée en superstition pour soumettre les hommes. Seul un État despotique, comme une monarchie, hein, vous allez voir, Spinoza va citer le cas de la monarchie. Seul un État despotique comme une monarchie a besoin de présenter comme religion, en quelque sorte, la crainte et la superstition, afin d'obtenir une obéissance inconditionnelle, afin d'asservir le peuple à la satisfaction de ses intérêts particuliers. Et là, vous avez le plus célèbre texte de Spinoza qui est dans la préface du traité théologico-politique que je vais lire avec vous. Alors, vous l'avez, il se trouve ligne 35, à partir de la ligne 35, il est très célèbre. Hein. Je le lis. Hein, ligne, alors, feuille 1, colonne de gauche. Mais si le grand secret du régime monarchique est son intérêt majeur est de tromper les hommes et de colorer du nom de religion la crainte qui doit les maîtriser, afin qu'ils combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut, et croient non pas honteux mais honorables au plus haut point de répandre leur sang et leur vie pour satisfaire la vanité d'un seul homme, on ne peut par contre rien concevoir ni tenter de plus fâcheux dans une libre république, puisqu'il est entièrement contraire à la liberté commune que le libre jugement propre soit asservi aux préjugés ou subisse aucune contrainte. Mais relisons le texte, si vous voulez. Hein. Donc, mais si le grand secret du régime monarchique et son intérêt majeur est de tromper les hommes et de colorer du nom de religion la crainte qui doit les maîtriser, afin qu'ils combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur salut, et croient non pas honteux mais honorables au plus haut point de répandre leur sang et leur vie pour satisfaire la vanité d'un seul homme, on ne peut, par contre, rien concevoir ni tenter de plus fâcheux dans une libre république, puisqu'il est entièrement contraire à la liberté commune que le libre jugement propre soit asservi aux préjugés ou subisse aucune contrainte. Donc vous voyez que, à sa façon, Spinoza nous montre qu'il y a comme une sorte de servitude volontaire, hein, de la part ici des hommes qui obéissent aux despotes. Mais qu'est-ce qui rend possible cette servitude volontaire ? La superstition. C'est par la superstition qu'on tient les hommes et qu'on arrive en quelque sorte à capter une obéissance inconditionnelle au pouvoir. Hein ? Sans cette superstition, effectivement, le pouvoir serait bien fragile. Hein ? C'est cela qu'il utilise, hein, pour maintenir les hommes dans la servitude. Alors, comme on l'aura compris, donc, il y a un lien étroit entre la superstition, l'intolérance et le despotisme. C'est-à-dire qu'en confondant le discours religieux avec l'enseignement d'une vérité sacrée dont ils se prétendent les interprètes légitimes, eh bien, les théologiens contribuent non seulement à entretenir une image superstitieuse de la religion, mais il prépare en outre le terrain à la subordination de la politique à la religion. Et évidemment, cette subordination de la politique à la religion exclut toute liberté de pensée. Vous voyez ? J'en viens à ma seconde partie. J'en viens à ma seconde partie. Hein, si vous suivez bien le plan, hein, la seconde partie, eh bien, nous allons voir comment Spinoza va détruire les préjugés des théologiens, parce qu'il apparaît maintenant urgent et nécessaire de détruire ces préjugés. Il est nécessaire de détruire ces préjugés, d'une part, pour saisir d'abord la véritable nature de la religion. Hein, il va s'agir de saisir la véritable nature de la religion, de bien montrer que la religion n'est pas la superstition, que ce que nous présente souvent comme religion, ce n'est que de la superstition. Hein ? Donc, bien saisir la véritable nature de la religion, dégager le véritable sens de ce qu'enseigne la Bible, et puis ensuite, comme ça, de cette manière-là, on pourra montrer que la liberté de penser ne peut pas être nuisible à la piété, ne peut pas être nuisible à la religion, pas plus d'ailleurs qu'elle ne peut être nuisible à la paix d'État. Vous voyez ? Voilà ce que nous allons montrer. Or ici, c'est en lisant d'abord scrupuleusement la Bible, eh bien, qu'on pourra véritablement déterminer la nature, le statut et la fonction des religions révélées. Religion révélée qui repose sur la croyance en la révélation. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, selon ces religions, Dieu s'est manifesté, il a transmis sa parole aux prophètes, et le contenu de cette révélation est transcrit dans l'Écriture sainte. Hein. Mais ici, la question, le problème est de savoir ce que dit vraiment l'Écriture sainte. Il s'agira bien sûr de faire la différence entre ce que l'Écriture sainte dit vraiment et ce qu'on lui fait dire, et ce que les théologiens lui font dire. Si on lit les nombreux livres qui composent la Bible, on voit qu'il ne s'agit pas d'un texte savant. Il ne s'agit pas d'un texte savant qui énonce des vérités spéculatives sur la nature de Dieu. C'est un texte adapté à la compréhension du plus grand nombre et qui utilise pour diffuser son message des images, des paraboles, des histoires. Et dès le début d'ailleurs du traité théologico-politique, dès le chapitre 1, eh bien, Spinoza montre, en s'appuyant sur la lecture de la Bible, hein, il s'appuie sur la lecture de la Bible, eh bien, il montre que les prophètes n'ont pas de Dieu une connaissance claire, puisqu'ils lui attribuent des traits humains. Les prophètes, ils sont comme les hommes auxquels ils s'adressent, ce sont des ignorants, des gens plus ou moins incultes, hein. Et évidemment, quand ils parlent de Dieu, ben, ils en parlent à la façon dont on se représente un homme. Ils en ont une vision anthropomorphique. Par exemple, je vous donne quelques exemples qui sont cités par Spinoza dans le premier chapitre. Le prophète Michée a vu Dieu assis. Daniel, le prophète Daniel, l'a vu sous la forme d'un vieillard, vêtu de vêtements blancs. Et Ézéchiel, lui, l'a vu comme un grand feu. Mais s'expriment par des images, ils ont des images. C'est ainsi qu'ils se représentent Dieu. Donc, vous voyez que les prophètes ne sont pas des philosophes, ce ne sont pas des savants qui raisonnent, ce sont des hommes, comme le montre Spinoza dans le chapitre 2, ce sont des hommes dont l'imagination est très très vive. Mais, surtout, ce sont des hommes qui s'imposent aux autres hommes par leurs éminentes qualités morales. Et ce sont surtout ces qualités morales qui font qu'ils sont écoutés et qu'ils ont un pouvoir de persuasion. Alors qu'au fond, l'imagination vive, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui fait que les prophètes sont reconnus comme des prophètes par les autres hommes? Leurs éminentes qualités morales. Et les prophètes, ils s'expriment souvent dans des périodes de crise. Hein, et les hommes les écoutent. Bon, respectueusement. Et donc, si on mesure que les prophètes sont eux-mêmes, la plupart du temps, des ignorants, eh bien, si on se rend compte, hein, en lisant le texte, toujours lire le texte, si on se rend compte des préjugés qui sont les leurs, si on fait une petite enquête hein, sur l'époque dans laquelle ils se trouvent, eh bien, on ne s'étonnera pas qu'ils aient une vision anthropomorphique de Dieu. On ne s'étonnera pas qu'ils imaginent que Dieu intervient souvent par des miracles. Parce que les miracles, il y en a en permanence, hein, dans la Bible. Donc on ne peut pas considérer le contenu de leurs prophéties comme des vérités indiscutables qui nous permettraient de connaître la nature de Dieu et qui nous permettraient même de connaître les phénomènes naturels. Par exemple, je vais prendre un exemple, si vous voulez, hein, pour qu'on comprenne bien ce que je dis. On ne doit pas, par exemple, chercher dans la Bible l'équivalent d'un texte savant sur les phénomènes naturels. Et c'est pourtant ce que fait un disciple de Luther, le bras droit de Luther, qui s'appelait Mélenchon. Eh bien, Mélenchon, n'hésitez pas à condamner la thèse héliocentrique du mouvement de la Terre, hein, la thèse de Galilée, étant donné que le récit biblique raconte que Dieu a ordonné au soleil de s'arrêter. Il y a un passage dans la Bible où il est dit que Dieu a ordonné au soleil de s'arrêter. Alors, si vous prenez la Bible comme un texte savant qui énonce la vérité, ben vous allez dire, effectivement, puisque la Bible dit, c'est comme ça que font les témoins de Jéhovah, hein, c'est puisque la Bible dit, c'est que c'est vrai. Hein, c'est que c'est vrai. Bon. Or, que nous recommande Spinoza ? Il nous montre que d'abord, ces récits en disent plus sur les hommes qui les écrivent que sur la vérité des choses. C'est-à-dire que, je cite Spinoza dans le chapitre 6, « Il est très rare que les hommes racontent une chose simplement comme elle est arrivée, sans y rien mêler de leur propre manière de juger. D'où cette conséquence que dans leurs chroniques et leurs histoires, les hommes racontent leurs propres opinions plus que les faits réellement arrivés. » Donc, si vous voulez, les récits auxquels vous avez affaire sont de véritables documents qui en disent long sur la mentalité, évidemment, des prophètes et de ceux qui racontent ces récits. Bon, alors, j'en viens à mon exemple. Mon exemple, vous prenez la feuille numéro 2, en haut à droite. L'exemple de Josué. Rien, par exemple, de plus clair dans l'Écriture que ce fait. Josué est peut-être aussi l'auteur qui a écrit son histoire. Josué a cru que le soleil se mouvait autour de la terre, que la terre était immobile, et que le soleil s'est arrêté pendant quelque temps. Beaucoup, cependant, ne voulant pas accorder qu'il puisse y avoir aucun changement dans les cieux, explique ce passage de telle sorte qu'il semble ne rien dire de semblable. D'autres, qui ont appris à philosopher plus correctement, connaissant que la terre se meut et que le soleil, au contraire, est immobile, font des efforts désespérés pour tirer cette vérité de l'Écriture en dépit de ses réclamations manifestes. Je les admire en vérité. Je vous le demande. Sommes-nous tenus de croire que Josué, qui était un soldat, était versé dans l'astronomie, qu'un miracle n'a pu lui être révélé ou que la lumière du soleil n'a pu demeurer plus longtemps que de coutume au-dessus de l'horizon, sans que lui, Josué, connût la cause de ce phénomène? Pour ma part, l'une et l'autre interprétation me semble ridicule. J'aime donc mieux dire ouvertement que Josué a ignoré la vraie cause de cette prolongation de la lumière, qu'avec toute la foule présente, il a cru que le soleil se mouvait autour de la terre et que ce jour-là, c'était arrêté quelque temps. C'est-à-dire que, vous voyez, un certain nombre de philosophes qui sont un peu gênés par l'épisode vont essayer de tordre le texte, de le rendre compatible avec, je dirais, la vérité scientifique, vous voyez. Bon, pas possible, on ne peut pas faire ça. Josué a cru sincèrement que le soleil s'était arrêté, que Dieu l'avait arrêté. N'allons pas, vous voyez, forcer le texte. N'allons pas l'adapter à ce que nous voudrions qu'il dise. Ou ne faisons pas non plus comme Mélenchon, qui, lui, tout de go, déclare que désormais, ce que dit Galilée est faux, puisque la Bible, puisque la Bible dit le contraire. Vous voyez, c'est absurde. Alors pourquoi ce genre de considération? Parce que on attend de la Bible qu'elle soit un traité qui dise la vérité. Or, c'est pas le propos de la Bible. Là est l'erreur. Ce n'est pas en lisant la Bible que vous allez connaître la nature de Dieu, comme vous ne connaîtrez pas plus non plus la nature de la réalité. La Bible n'est pas là pour ça. C'est pas son enseignement. Alors, donc, vous voyez que par l'exemple que je vous ai donné, Spinoza montre qu'on ne peut pas lire la Bible à la façon, au fond, d'un illuminé, excusez-moi, qui prétend pouvoir tout tirer du texte, pour comprendre la nature des choses. Donc, ces récits nous montrent les préjugés, les mentalités des hommes qui les ont écrits, et qui étaient tout aussi ignorants que ceux auxquels ils s'adressaient. Alors, maintenant que je vous ai dit cela, vous avez compris qu'on ne peut pas attendre de la Bible qu'elle soit un traité savant, En quoi consiste son enseignement? Quel est l'enseignement de l'Écriture sainte? Comment déterminer la nature de cet enseignement? C'est ça, maintenant, la question qu'il faut se poser. Et c'est ce point-là que Spinoza va aborder. Et pour l'aborder, il s'agit de mettre sur pied une méthode d'interprétation de l'Écriture. Et Spinoza est ici le premier à élaborer une méthode rationnelle d'interprétation de l'Écriture. Cette méthode doit s'en tenir au texte, rien qu'au texte. Vous voyez ? Ne pas forcer le texte, ne pas lui faire dire ce qu'on voudrait qu'il dise. Ne pas dénaturer le texte. Et ça, c'est la règle, si vous voulez. L'écriture seule. L'écriture par elle-même. Sola scriptura. Vous voyez ? Et c'est de cette façon qu'on va pouvoir effectivement en dégager le véritable sens. Et ce que va faire Spinoza, c'est qu'il va nous montrer, au fond, que chacun peut user de sa raison pour lire la Bible. Il n'y a pas besoin ici de passer par l'intermédiaire d'un rabbin, d'un prêtre, d'un pasteur pour comprendre la Bible. On n'a pas besoin de se subordonner à l'autorité d'un théologien pour en comprendre le sens. Pour comprendre le véritable sens de la Bible, eh bien, il faut tout simplement l'aborder méthodiquement en sachant se servir de sa raison. Et c'est ce que nous propose Spinoza. Alors, lisons la Bible sans a priori religieux ni philosophique. Ne tenons compte que du texte, hein, c'est le principe. C'est le principe. Mais une fois ce principe reconnu, eh bien, comment l'étudier ? Eh bien, pour étudier la Bible, eh bien, il faut s'inspirer de la méthode des physiciens qui étudient la nature. Quand les physiciens étudient la nature, eh bien, simplement, ils essaient d'en comprendre la logique interne. Ils essaient de comprendre comment les phénomènes naturels sont liés les uns aux autres. Eh bien, c'est la même chose pour l'écriture. Si vous voulez vraiment lire méthodiquement l'écriture, il va falloir que vous essayiez de voir comment les différents écrits s'enchaînent. Il va falloir que, pour comprendre tel passage, eh bien, vous vous serviez d'autres passages. Vous voyez ? Vous ne prendrez en considération que la cohérence interne du texte. C'est ça qui prime. Alors, première étape de la méthode, eh bien, on commence par rassembler des informations. On étudie chaque livre. On étudie la langue dans laquelle il est écrit. C'est pour ça que Spinoza, d'ailleurs, va apprendre l'hébreu. Il ne connaissait pas l'hébreu. Et d'ailleurs, la plupart des juifs, sous l'Inquisition, avaient perdu même la connaissance de l'hébreu. Il a fallu réapprendre l'hébreu. Hein ? Et d'ailleurs, il va constituer une grammaire de l'hébreu. Bon, donc il apprend l'hébreu. Il faut apprendre la langue dans laquelle le livre est écrit. Tous ne sont pas écrits en hébreu, hein. Il y en a qui sont écrits en grec, il y en a qui sont écrits en araméen. Bon, mais beaucoup de textes sont en hébreu. Il faut comprendre les subtilités de l'hébreu. Ensuite, quand vous avez fait ce travail de défrichage, il faut classer, il faut ordonner les différents énoncés, hein, faire un classement. Il faut aussi faire une enquête sur l'auteur. À quelle époque il a écrit ? Quelle était son appartenance sociale ? Ça peut expliquer un certain nombre de préjugés, vous voyez ? Bon. Donc, vous voyez, c'est de cette façon, par une enquête méthodique, et le mot qui exprime l'idée d'une enquête méthodique, c'est le mot d'histoire. Le premier sens du mot histoire, c'est ça. C'est une enquête historique. Une histoire, c'est une enquête. Hein, c'est par un travail d'enquête que l'on va pouvoir, de manière laborieuse, établir la véritable pensée, finalement, des auteurs de la Bible. Hein, puisque, au fond, établir le véritable sens de la Bible, c'est comprendre ce que les auteurs de la Bible ont véritablement voulu dire. Bon. Alors, vous voyez, ici, il y a une chose très très importante sur laquelle j'insiste. Ce travail d'interprétation méthodique n'a pas pour but de déterminer si ce que pense l'auteur du texte est vrai ou faux. Vous voyez bien, même souvent, ce que raconte l'auteur du texte est faux. Vous voyez, l'histoire de Josué, c'est complètement faux ce qu'il raconte sur le soleil. Mais ça n'est pas le problème. Le problème n'est pas de savoir si ce qui est dit est vrai ou faux. Le problème est de savoir si ce qui est dit, l'auteur l'a véritablement pensé. Donc, vous voyez, comme dit Spinoza, il faut faire la distinction entre le sens d'un discours et la vérité des choses. Or, interpréter la Bible, c'est établir le sens, le véritable sens de la Bible. C'est pas s'occuper de savoir si la parole de tel ou tel prophète est vraie ou fausse. Ça, c'est pas le problème. Hein. Ça, c'est un problème, je dirais, qui ne concerne pas la méthode d'interprétation de l'écriture. Hein. Il s'agit pas, si vous voulez, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas soumettre, qu'il ne faut pas subordonner la lecture de la Bible aux exigences de la connaissance, aux exigences de la science. Le problème n'est pas de savoir si le prophète se trompe ou s'il dit la vérité. Le problème, je répète, c'est de savoir, c'est de connaître le véritable sens de sa pensée. Et je vais prendre un exemple qui est dans le chapitre 7 et qui est très célèbre. Vous voyez, vous avez un certain nombre de textes de la Bible qui relatent les paroles de Moïse. Moïse dit « Dieu est un feu, Dieu est jaloux ». Ah, les paroles de Moïse. Dieu est un feu, Dieu est jaloux. Alors, comment mener l'enquête? Eh bien, est-ce que Moïse pense véritablement que Dieu est un feu? Si vous lisez d'autres passages de la Bible, vous verrez que Moïse ne voit pas en Dieu un être matériel. Hein? Moïse n'envisage pas Dieu comme un être matériel, c'est un être immatériel, donc ça ne peut pas coller. Il ne peut pas avoir vraiment pensé que Dieu est un feu. Il ne peut pas l'avoir vraiment, pensé. Hein. Mais si vous faites une enquête sur l'hébreu, si vous menez une petite enquête sur la langue, vous vous apercevrez qu'en hébreu, le mot « feu » peut avoir un sens figuré. Il peut avoir un sens figuré. Le feu peut signifier la colère et la jalousie. Donc, vous voyez, cette petite enquête vous montre que la première formule, Dieu est un feu, eh bien, au fond, la première formule se ramène à la seconde. Dieu est jaloux. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Hein. Alors maintenant, prenons en considération le deuxième énoncé. Est-ce que cet énoncé traduit véritablement la pensée de Moïse? Est-ce que Moïse a vraiment voulu dire que Dieu est jaloux? Menons notre enquête. Regardons d'autres passages de la Bible. Eh bien, nous allons voir qu'effectivement, c'est confirmé. Moïse parle de Dieu très souvent de manière anthropomorphique. Il accorde assez souvent des passions à Dieu. Donc, c'est tout à fait cohérent. Donc, effectivement, on peut conclure que Moïse a véritablement pensé que Dieu était jaloux. Vous voyez, c'est un petit exemple de la méthode. Alors, oui, bien sûr, cette interprétation méthodique de l'écriture va se heurter à des difficultés considérables. Pourquoi? Parce que c'est Spinoza qui le montre, hein, parce que la Bible est l'œuvre de plusieurs auteurs. Les textes sont écrits à des époques très éloignées et nous ne possédons pas certains livres dans leur langue originale. Ils ont été retraduits et certains passages ont disparu ou ont été très mal recopiés. Donc il y a des passages vraiment incompréhensibles. Il y a des passages vraiment incompréhensibles et on ne pourra jamais les comprendre, malgré la méthode. C'est-à-dire qu'au fond, je dirais que si on est rigoureux, hein, si on utilise une lecture méthodique de la Bible, eh bien on doit admettre qu'il y a des choses qui resteront à jamais inconnues. Qu'il y a des choses qui résisteront toujours à l'explication. Alors, on ne va pas invoquer le mystère, hein, pour autant. Simplement, on n'a pas les moyens, évidemment, de comprendre la signification de ces passages, pour les raisons que j'ai indiquées. Et je répète, Spinoza est tout à fait conscient des difficultés, hein, de cette interprétation. Et donc, il ne prétend pas qu'on peut comprendre la totalité du texte. Hein, il estime que c'est une entreprise impossible. Mais au fond, le but de Spinoza, c'est de délimiter rigoureusement ce qui est connu de ce qui ne l'est pas. Voilà, hein, si vous voulez, la méthode de Spinoza le conduit finalement à délimiter clairement ce qui est connu, ce qui vraiment peut être connu, et puis ce qui ne l'est pas et qui ne peut pas l'être. Alors, ceci étant dit, quel est, au fond, le message essentiel de la Bible ? Voilà la question. Quel est le message principal de tous ces textes qui sont très différents, qui sont écrits par des auteurs tous différents, à des époques toutes différentes ? Le message essentiel de la Bible, il est très simple, il est partout et toujours le même. Il s'agit d'un enseignement moral. La Bible enseigne que Dieu ordonne de pratiquer la justice et la charité. C'est toujours le même message, formulé de façon différente. C'est le message constant. La Bible enseigne que Dieu ordonne de pratiquer la justice et la charité. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Et vous voyez que c'est un enseignement moral, c'est pas un enseignement théorique, c'est un enseignement moral. Et cet enseignement, il est parfaitement clair. C'est-à-dire qu'au fond, il peut être saisi même par quelqu'un qui ne connaît pas l'hébreu, en un sens. Et au fond, l'essentiel du contenu moral de la Bible, en un sens, si vous voulez, il peut se traduire dans toutes les langues sans difficulté. Hein. Ce sont toujours des mots assez simples qui permettent de l'utiliser. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce qui est un peu compliqué dans la Bible et qui demande de l'érudition, finalement, c'est assez secondaire. C'est assez secondaire, vous voyez. Alors, d'ailleurs, pour comprendre, pour bien dégager, c'est ce que montre Spinoza à la fin du chapitre 7, pour bien dégager le sens véritable de la Bible, il n'est pas nécessaire de connaître dans le détail la vie de l'auteur qu'il a écrit, hein, le passage. Il n'est pas franchement besoin de connaître la mentalité de l'époque, il n'est pas vraiment besoin de mener des études d'hébreu, vous voyez. Je lis ici un texte que vous avez, feuille 2. Feuille 2. Le dernier texte en bas, à droite. Nous conclurons donc que nous parviendrons très facilement par la connaissance historique de l'Écriture, telle que nous pouvons l'établir, à saisir la pensée de l'Écriture quand il s'agira d'enseignements moraux et que nous en connaîtrons dans ce cas le sens avec certitude. Là, on ne peut pas se tromper. Sur ce sens-là, on ne peut pas se tromper. Et c'est suffisamment avéré, si vous voulez. L'enquête le montre suffisamment. Là, on a vraiment une compréhension indiscutable. Maintenant, quant à d'autres passages, mais je répète, les autres passages ou les textes qui sont un peu obscurs, finalement, ils ne sont pas aussi fondamentaux. Vous voyez ? Et puis, si vous avez bien compris cela, si on comprend, si on saisit que la parole de Dieu révélée aux hommes n'a d'autre but que de conduire leurs mœurs afin qu'ils puissent vivre en paix les uns avec les autres, eh bien, vous aurez compris aussi en quoi consiste la véritable nature de la foi. C'est ce que va expliquer Spinoza dans sa préface. Alors, juste le texte juste avant, hein, toujours la même feuille, le texte qui est avant, hein, c'est un texte tiré de la préface, et qui résume bien, au fond, ce que montre Spinoza sur la nature de la foi. Ayant ainsi fait connaître les fondements de la foi, je conclus enfin que la connaissance révélée n'a d'autre objet que l'obéissance, car l'obéissance à Dieu, l'obéissance pratique. Vous voyez, la connaissance révélée n'a d'autre objet que l'obéissance et est ainsi entièrement distincte de la connaissance naturelle. Ce qu'il appelle la connaissance naturelle, c'est la connaissance rationnelle. Au fond, c'est la science, si vous voulez. Hein ? Tant par son objet que par ses principes et ses moyens. Et que ces deux connaissances n'ont rien de commun, mais peuvent l'une et l'autre occuper leur domaine propre sans se combattre le moins du monde. Et sans qu'aucune des deux doive être la servante de l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on disait au Moyen-Âge ? Qu'est-ce que disait Thomas d'Aquin, par exemple ? Il faut que la philosophie soit la servante de la foi. Vous voyez ? Il faut que la philosophie soit la servante de la foi. Qu'est-ce que montre Spinoza ? Mais la foi et la raison sont deux domaines radicalement distincts, qui n'ont absolument rien à voir. La foi a pour objet l'obéissance, elle n'a pas une visée théorique, elle a une visée pratique. La raison a pour objet la vérité, elle a une visée théorique. Et ce sont deux domaines, je répète, radicalement distincts, qui ne se combattent pas. Et il n'y a pas à exiger de la foi qu'elle énonce la vérité, il n'y a pas non plus à exiger de la raison qu'elle interdise de croire. Vous voyez ? C'est-à-dire que la foi et la raison sont deux domaines distincts qui ne peuvent pas empiéter l'un sur l'autre parce qu'ils ont chacun, au fond, un objet différent, une fonction différente, je répète, l'obéissance d'un côté, la vérité de l'autre. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on entend par la foi ? Quelle est la nature de la foi ? Ben, elle ne consiste pas, pour l'essentiel, à adhérer à des dogmes considérés comme vrais. Ce n'est pas le problème. La foi, ce n'est pas ça. La foi, ce n'est pas, au fond, cette attitude qui consiste à adhérer à des dogmes qui sont, je dirais, considérés comme absolument vrais et indiscutables. Mais la foi consiste à agir. La foi consiste à agir dans un esprit de charité et de justice. Donc, vous voyez que dans la véritable foi, l'acte est plus important que le culte. Au fond, celui qu'on accuse d'athéisme, mais qui, au fond, agit dans un esprit de justice et de charité, il a la foi, selon Spinoza. Celui qui, au contraire, se dit croyant, chrétien, et qui, au fond, ne se préoccupe que d'une chose, c'est de savoir si sa foi est vraie ou si elle est fausse, celui-là n'a pas la foi. Vous voyez ? Comment il faut l'entendre ? C'est-à-dire que la foi, la véritable foi, c'est celle qui se traduit en œuvre. En œuvre. Elle ne se réduit pas à des pratiques, culturelles, puisque l'essentiel, dans les pratiques culturelles, en tout cas pour les superstitieux, c'est de se démarquer des autres, si vous voulez. Les pratiques culturelles, comme on l'a vu tout à l'heure, elles ne favorisent pas l'amour du prochain. Elles permettent au contraire de s'opposer aux autres, de se distinguer des autres. Donc, là n'est pas l'essentiel. L'essentiel de la foi, c'est, au fond, cette conduite de justice et de charité. Et c'est rien d'autre. Vous voyez ? Donc, si l'essentiel de la foi consiste dans la pratique, dans la pratique de la justice et de la charité, les opinions différentes des uns et des autres, en termes de religion, en matière de croyances religieuses, finalement, doivent toutes être respectées. Chacun a sa propre manière d'envisager son rapport à Dieu. Ça le regarde. Ça ne gêne personne. C'est-à-dire que, au fond, chacun a la liberté de croire ce qu'il veut. Et la raison n'a pas à s'en mêler. Lisons le texte. La suite. Le deuxième colonne de droite, toujours le deuxième, au milieu. Puisque les hommes ont des complexions, enfin, comment traduire ça, une idiosyncrasie, enfin, je sais pas, une manière d'être différente. Bon, puisque les hommes ont des complexions différentes et que l'un se satisfait mieux de telles opinions, l'autre de telles autres, que ce qui est objet de religieux respect pour celui-ci excite le rire de celui-là. Je vais faire des caricatures. Eh bien, je conclus encore qu'il faut laisser à chacun la liberté de son jugement et le pouvoir d'interpréter selon sa complexion les fondements de la foi et juger de la foi de chacun selon ses œuvres seulement. Selon ses œuvres seulement. Se demandant si elles sont conformes ou non à la piété, car de la sorte, tous pourront obéir à Dieu d'un entier et libre consentement, et seule la justice et la charité auront pour tous du prix. L'essentiel, c'est ça, c'est la pratique de la justice et de la charité. Les opinions, elles peuvent diverger, elles peuvent être très différentes. Et où est le problème? Puisque la foi ne prétend pas établir la vérité. Donc il peut y avoir plusieurs manières, vous voyez, de se rapporter à Dieu. Une affaire d'opinion, une affaire de croyance. Hein? Bon. Alors de cette analyse, il faut tirer deux conclusions. Première conclusion, toute confusion de la foi avec la question de la vérité risque d'aboutir à l'intolérance et au fanatisme. C'est la confusion entre la question de la foi et la question de la vérité qui mène à l'intolérance. Une religion devient intolérante quand elle sort des limites de son enseignement moral, quand elle prétend détenir la vérité. Quand elle prétend détenir la vérité et cherche à l'imposer à tous, en régissant la vie sociale. Hein, prosélytisme, et puis, bon, on impose. Hein. Ça, c'est la première conclusion. Hein. Bon. La deuxième, je la développe, je ne l'avais pas prévue dans mon plan, mais je la développe, je la trouve intéressante. Il n'y a pas de norme de la vraie foi. Il ne peut pas y avoir de canon religieux qui permettent d'établir ce qu'il faut croire. Vous savez que dans les églises, il y a un droit canon. Hein, il y a un canon. Un canon, le canon d'une église, c'est le recueil des livres que l'église a reçu en dépôt et qui a la valeur d'une règle de la foi. Hein, c'est-à-dire qu'on va se fonder sur ces textes pour établir, au fond, la vraie doctrine, en quelque sorte. Hein. Et c'est sur ce canon que l'Église fonde son autorité. Or, ce qui est très intéressant, c'est un chapitre qu'on ne lit pas assez, mais à la fin du chapitre 10, Spinoza fait une critique de la constitution des canons. Alors, il va prendre l'exemple de l'Église judaïque, mais on pourrait reprendre ce type d'analyse pour étudier aussi la constitution du canon de l'Église catholique. Hein. Bon. Il montre que, au fond, que les canons qui sont avancés par les différentes religions, ces canons ne peuvent avoir aucun véritablement fondement divin. C'est-à-dire que le canon, si vous voulez, ne peut aucunement se fonder sur l'autorité de Dieu, contrairement à ce qui est prétendu. Alors, je prends l'exemple, donc, du canon de l'Église judaïque. Comment s'est-il constitué? Eh bien, les rabbins ont cherché à faire croire que les prophètes, Daniel, Néhémie, Zacharie, avaient été associés à la constitution du canon. Or, c'est impossible. C'est complètement impossible. Mais c'est important de le faire croire aux hommes. Il est important que les hommes croient que le canon émane des prophètes eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les prophètes, ils ont été en relation directe avec Dieu. Vous voyez? Parce qu'à travers les prophètes, c'est Dieu lui-même qui s'exprime. Donc il est important que les hommes croient que le canon émane de l'autorité divine. Et de cette manière, le canon est mis à l'abri de toute discussion. Hein, les textes sont sacralisés et l'autorité de l'Église, bien sûr, se trouve conforté. Or, à la fin du chapitre 10, Spinoza montre que le canon, en aucun cas, ne peut avoir une autorité divine, une source divine, parce qu'il n'a pas été établi par les prophètes, parce qu'il n'a pas pu être établi par des prophètes. Mais seulement, il a été seulement établi par une assemblée de doctes, par une assemblée de savants. Et ce sont donc des hommes seulement, qui ont débattu de la question de savoir quel texte serait reçu comme canonique et puis quel texte serait au contraire considéré comme apocryphe. Ils ont fait leur petit micmac, quoi. Bon, c'est comme pour l'Église catholique, si vous voulez. L'Église catholique ne s'est vraiment à constituer finalement son canon qu'assez tardivement, pas au temps des apôtres. Vous voyez? Bon. Donc, Voilà un point aussi décisif. Donc il n'y a pas de norme de la foi. La foi, c'est une affaire, au fond, de liberté, d'opinion, d'une certaine façon. Et l'essentiel n'est pas le contenu théorique. L'essentiel, c'est la pratique. Alors, bien sûr, ici, vous voyez, j'ai insisté beaucoup sur l'aspect religieux, hein, parce que je pense que c'est le plus intéressant, le plus important. Mais il y a tout de même, dans la démonstration Spinoza, un autre aspect de sa réflexion sur la tolérance. Non seulement il montre que la liberté de penser n'est pas un danger pour la piété, mais il montre aussi, et ça c'est le deuxième aspect de son analyse, il montre aussi que la liberté de penser est nécessaire à la paix de l'État. Alors, je vais très schématiquement présenter sa démonstration, mais ça va être très court, hein, parce que je ne peux pas développer vu le temps. Si vous voulez, cette démonstration, elle est en 3 ou 4 étapes, si vous voulez. Elle se trouve dans le chapitre 20, le dernier chapitre. D'abord, première chose, Spinoza montre que la liberté de penser des individus est irréductible. C'est une propriété nécessaire de leur nature, si vous voulez. Hein. Donc un État aura beau faire, il ne pourra pas empêcher les hommes de penser. Il ne pourra pas empêcher les hommes d'avoir des opinions, y compris des opinions contraires à ce qu'ils voudraient. C'est ainsi. Alors, par contre, oui, l'État peut réussir à faire taire les hommes. Il peut réussir à ce que les hommes dissimulent leurs pensées, oui. Mais c'est assez dangereux, parce que on les habitue à l'hypocrisie, à la dissimulation. Mais, si vous voulez, on ne peut pas réprimer vraiment la liberté de penser. On peut la faire taire, on peut faire taire la pensée, on ne peut pas vraiment, vous voyez, empêcher les hommes de penser, d'avoir des opinions. Alors c'est vrai que par contre, dans une situation de terreur, la liberté de penser ne va pas pouvoir franchement bien s'épanouir. Hein, on est d'accord. Pour former l'État, deuxième temps de la démonstration, pour former l'État, les individus, comme dit Spinoza, renoncent seulement à leur droit d'agir suivant le seul décret de leur pensée. Ils renoncent seulement à leur droit d'agir suivant le seul décret de leur pensée. C'est-à-dire que, concrètement, ils décident d'un commun accord, qu'on appelle le pacte social, hein, ils décident d'un commun accord d'obéir à l'État, d'obéir au souverain. Et grâce à ce renoncement, le souverain, donc l'État, eh bien, détient, au fond, un pouvoir absolu. Vous voyez ? Bon. Le souverain, c'est, au fond, celui qui exerce le pouvoir, quel qu'il soit. Soit c'est un monarque, soit c'est une aristocratie, soit c'est la collectivité. Si c'est la collectivité, on a affaire à une démocratie. Hein, le souverain, ça peut être ces trois types de personnages. Bon. Mais ce qui est sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que le souverain, c'est lui qui décide seul des lois. C'est lui qui détient seul le pouvoir de légiférer et de faire exécuter les lois. Voilà, c'est ça, c'est en ce sens-là qu'il est souverain. C'est-à-dire qu'au fond, par le pacte social, les individus, au fond, ont accepté, au fond, de renoncer à leur droit d'agir selon leurs caprices, et ils ont conféré finalement le pouvoir de décider des lois à ce souverain. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais s'ils renoncent au droit d'agir selon le décret de leur pensée, les individus ne renoncent pas, comme dit Spinoza, ils ne renoncent pas au droit de raisonner et de juger. Ils ne renoncent pas, au fond, au droit de penser, tout simplement. Vous voyez ? Et en conséquence, l'État, il est bien en droit d'exiger que les actes des individus soient conformes aux lois. Vous voyez ? Les individus, quand ils deviennent citoyens, ils sont obligés d'obéir aux lois, hein, bien sûr. Hein, c'est le souverain les punira si leurs actes ne sont pas conformes aux lois. Mais il ne peut pas imposer aux hommes, de penser comme il veut. C'est-à-dire que l'État ne peut pas leur imposer des opinions, des croyances, et tout État qui censure des opinions, en fait, c'est un État qui va se fragiliser. Qui va se fragiliser parce qu'il va se montrer partisan d'une opinion, il va privilégier une fraction des citoyens au détriment des autres, et donc un État intolérant va favoriser en son sein des dissensions, il va s'affaiblir puisqu'il risque même de provoquer une rébellion contre lui. Vous voyez ? Parce que les hommes dont les opinions sont interdites n'accepteront pas qu'elles soient considérées comme criminelles. Donc ils ne laisseront pas faire, ils se rebelleront. Alors, vous voyez que des lois de censure, finalement, sont dangereuses pour l'État. Un État n'a pas intérêt à promulguer de telles lois. Hein. C'est contre-productif. Et non seulement c'est contre-productif, mais mieux un État, plus un État garantit la liberté de penser, et plus il est fort. Et plus il est apte à se conserver. D'ailleurs, en ce sens, l'État le plus fort, c'est la démocratie. C'est l'État démocratique. Pourquoi ? Parce que c'est un État qui s'appuie sur la liberté de penser des citoyens pour débattre et délibérer des lois, puisque les citoyens font partie du souverain. Donc les citoyens s'expriment, évidemment avant que la loi soit votée et adoptée, ils expriment leurs options, ils débattent, ils discutent entre eux. Et donc vous voyez que l'État démocratique s'appuie sur la liberté de penser. Et vous voyez que la conclusion, c'est que la liberté de penser, eh bien, elle permet éventuellement de critiquer les lois existantes, de proposer des améliorations, elle permet, au fond, en un sens, à l'État de se réformer, de se corriger, de s'améliorer, vous voyez, de se renforcer. Donc, la tolérance, vous voyez, en ce sens-là, elle est plutôt l'effet de la puissance d'un État. Elle n'est pas une faiblesse. La tolérance, c'est... Hein, qui règne entre les diverses opinions des hommes au sein d'un État, la tolérance est le signe, au fond, de sa santé, en quelque sorte. Hein. J'en terminerai là. Vous voyez, je ne peux pas aller plus loin sur ce point-là, parce que c'est un peu trop... Mais c'est un peu court, hein, ce que je viens de dire là-dessus. Vous m'excuserez. Voilà. J'arrête là. Et je fais vos questions. Oui. Quelle actualité ? Quelle actualité ? Celle du Bangladesh ? Ah, le terrorisme. Ah, mais quel terroriste ? Non, je fais de mauvaises plaisanteries. Non. Alors, oui, bien sûr, non, mais par rapport au phénomène de l'intolérance religieuse, c'est évident. Et on voit bien que les problèmes auxquels Spinoza est confronté, ce sont des problèmes qu'on pensait ne pas revoir. Ce sont des problèmes qui reviennent en force. Hein ? C'est clair. Et lui-même, il a vécu dans un climat qui n'était pas toujours franchement drôle. Hein. Je crois qu'il a été menacé par des fanatiques. Et puis un jour, je crois que quand... Oui, il y a encore une petite anecdote. Quand la République d'Amsterdam a été renversée par... il y a une sorte de manifestation populaire... les frères de Witt, qui étaient le chef d'État, hein, ont été tués, massacrés, et la monarchie a été instaurée. Et Spinoza, à cette époque-là, Dieu sait pourtant que la foule réclamait le retour des rois, eh bien Spinoza était, paraît-il, sorti dans la rue en disant... en criant contre la foule, en vituperant contre les gens, en disant « Dehors les barbares !» Enfin, je sais pas. Et puis, heureusement que des amis l'ont retenu, parce que sinon, il aurait été complètement étripé. Vous voyez, donc, c'était un homme entier et, qui, effectivement, était solidement déterminé hein, pour combattre, finalement, cet esprit de servitude. Hein. Ah, ça c'est clair, oui, bien sûr. Ben, la question de la tolérance, on ne peut pas ne pas parler Spinoza. C'est vrai. C'est une sorte, si vous voulez, il est devenu une sorte de saint philosophique, hein, Spinoza, en quelque sorte. Hein. C'est vrai que... Même ses adversaires l'admiraient, le louaient. Ils disaient que... Hein, parce qu'évidemment, il dérangeait certaines personnes. Comprenez, il était athée. Enfin, athée au sens où il ne croyait pas en l'existence d'un Dieu bon et juste. Hein, c'est-à-dire que pour lui, Dieu, c'est la nature. Dieu, c'est la nature, c'est la réalité, quoi, dont nous faisons partie. C'est-à-dire que quand il parle de la religion ici, quand il fait l'analyse de la religion, il s'agit de l'analyse de la religion révélée. Mais lui-même, effectivement, cette religion révélée, ce n'est pas la religion philosophique. La véritable religion, pour Spinoza, c'est la philosophie. C'est la sagesse qui permet de connaître Dieu rationnellement. Mais à ce moment-là, on n'a pas besoin de la Bible. On n'a pas besoin de la Bible pour cette... Mais rares sont ceux, si vous voulez, qui seront les adeptes de cette religion philosophique, hein, si on peut parler comme ça. Mais le Dieu de Spinoza, le Dieu que le philosophe connaît, n'a rien à voir avec le Dieu de la révélation. Ce n'est pas effectivement un être qui légifère et qui ordonne. Hein. Alors, il laisse de côté, vous voyez, sa propre conception de la divinité, qui est philosophique, dans le traité théologico-politique, d'une certaine façon, il la laisse de côté, et il étudie, par contre, la manière dont l'Écriture parle du Dieu qui se révèle. Pour montrer que on ne peut pas tirer du texte religieux une quelconque lecture superstitieuse, comme celle qui triomphe.
C'est juste un code moral pour
religion. Voilà. La religion, c'est... Code moral, j'aime pas trop le mot. Non, c'est une pratique. Code, ça voudrait dire, bon, j'ai le code, puis j'applique.
Ça veut dire le texte religieux.
Ah oui. Il a une fonction, il a une fonction morale, absolument.
Ça n'est que ça.
C'est ça. C'est pas ça n'est que ça. C'est ça, fondamentalement. Et vous voyez, la restriction que vous ajoutez, il ne serait pas d'accord. Non, c'est ça, fondamentalement. C'est ça, sa beauté, sa noblesse, si vous voulez. Vous voyez ? Et voilà, c'est... Oui ?
Je voudrais savoir quelle est sa définition de la vérité.
Sa définition de la vérité. La vérité, c'est... Ça, c'est difficile à dire. C'est-à-dire que Dieu, la totalité de l'être, le réel, s'exprime, au fond, en chacun de nous. Dès lors que nous pensons en Dieu, en quelque sorte. Et donc la vérité, au fond, elle se manifeste en nous, dès lors que nous exerçons notre raison. Elle est signe d'elle-même. Elle s'impose avec évidence. Hein? Voilà. Et ce n'est pas nous qui en décidons, ce n'est pas notre esprit qui la fabrique. Elle s'impose nécessairement dans l'exercice même de la pensée. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a un caractère ontologique, on dirait. C'est-à-dire qu'elle s'impose réellement à chaque homme, dès qu'il pense, dès qu'il développe sa pensée. Voilà, c'est ainsi que... Alors, effectivement, la vérité nous ramène à Dieu. Mais Dieu, en tant que Dieu, n'est pas ici une personne... distincte de la nature. Dieu, c'est la nature, Dieu, c'est l'être qui s'exprime selon plusieurs attributs, l'attribut de la pensée, l'attribut de l'étendue. Bon, alors là, il faudrait vraiment des développements pour bien faire comprendre ce point, mais je ne vais pas en dire trop, je dis simplement, effectivement, que Dieu, c'est la totalité de l'être qui s'exprime en nous, hein, quand nous pensons, en quelque sorte. Hein? Nous sommes des parties de Dieu. Voilà. Et nous faisons l'expérience de la nécessité du vrai. Hein? Mais ce n'est pas une vérité... Alors, évidemment, pour Spinoza, l'idée d'une parole divine, c'est... ça n'est valable que pour ceux qui croient que Dieu est comme un homme, en fait. qu'il parle, qu'il se révèle, qu'il s'adresse aux hommes. C'est ainsi que l'imagination des hommes se représente Dieu. C'est-à-dire que la religion se représente nécessairement Dieu de manière anthropomorphique. Mais la vraie connaissance de Dieu est philosophique. Dieu, c'est l'être absolu.
Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il met un V majuscule à la vérité ?
Non. Enfin, pas spécialement, non. Et pourquoi cette majuscule ? Parce que ce serait... Non. Parce qu'il y a une transcendance. Il n'y a pas de transcendance. Il n'y a que de l'immanence. Hein. Il n'y a que la réalité. Il n'y a rien d'autre que la réalité. Et Dieu, et c'est la réalité. C'est le tout de la réalité. Pour lui, c'est ça. Il n'y a pas, en dehors de la réalité, une présence qui serait Dieu et qui aurait décidé de faire être le réel. Pas ainsi. Mais, par contre, il sait que les hommes, quand ils sont croyants, quand ils ont la foi, se rapportent à Dieu comme à un être supérieur, transcendant, qui leur ordonne la pratique de la charité, de la justice. Mais pour l'essentiel, la religion philosophique, celle qui, au fond, consiste dans la sagesse, dans la connaissance, qui est celle du philosophe, et puis la religion au sens où nous l'avons vu ce soir, religion révélée, mais séparée de toute superstition, au fond, elles vont dans le même sens. Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est-à-dire que Spinoza n'est pas un ennemi de la religion, pas du tout. Mais ce que nous appelons souvent la religion, c'est de la superstition. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il dit souvent, vous avez eu la formule qui revient souvent, une religion sous couleur de religion, sous couvert de religion. Et c'est toujours, on habille toujours, au fond, la superstition en religion. Voilà. Et on fait parler Dieu comme ça nous arrange. Question ? Oui ?
Il
a lu la Bible. C'est un lecteur de la Bible assidu. Il a mis du temps. Il a peut-être pas pu lire tous les textes, évidemment. Je ne sais pas. Mais il a vraiment travaillé énormément sur les textes. Il a inauguré une méthode qui est aujourd'hui, d'ailleurs, toujours suivie. C'est un pionnier, en un sens. C'est la première fois qu'on aborde une lecture, qu'on y met au point une lecture méthodique de la Bible. Vous avez, puisqu'on parlait... Alors évidemment, cette lecture méthodique de la Bible, elle a des effets sur la pratique, puisqu'elle permet, d'une certaine façon, de lutter contre l'intolérance. Parce que l'intolérance se sert de la Bible, comme texte sacré pour faire taire, finalement, ceux qui ne pensent pas correctement. Le même problème se trouve aujourd'hui au niveau de l'islam. Et c'est pour ça que celui qui parlait à France Culture, je ne sais plus son nom là, qui est mort là récemment, il proposait qu'on adopte la même méthode de traitement du Coran que celle qu'avait adoptée Spinoza. Lui, il proposait de lire le Coran avec la même méthode. Étant entendu que dans le Coran comme dans la Bible, vous allez trouver des choses abominables. Vous avez trouvé tout. Enfin, c'est bien, c'est pas. Il faut vraiment être naïf pour envisager le texte comme s'il y avait, comme s'il était compact, comme s'il était uni, comme s'il était parfait, comme si, franchement, il exprimait d'un bloc une seule et unique vérité. Vous voyez, ça, c'est cette vision complètement absurde avec laquelle il faut rompre si on lit sérieusement les choses. D'une certaine façon, cette lecture littérale de la Bible et superstitieux de la Bible, elle dévalorise le texte. Voilà. Donc la Bible, c'est pas un traité de science. Et même, on y apprend des choses abominables, même parfois. Bon, il y a des textes où, franchement, il lui dit, allez, signez-les, hein, bon. Mais bon, mais c'est un document, c'est pas qu'un document non plus, on peut pas non plus. Spinoza ne veut pas non plus qu'on la réduise à une sorte de document historique. Elle a une portée morale. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, par exemple, c'est la manière dont il montre que le texte, la parole divine, peut être interprétée, peut subir deux traitements différents selon les périodes. Dans l'Ancien Testament, pour parler comme les chrétiens, la loi de justice et de charité s'exprime elle est le commandement finalement d'aimer les siens, d'aimer ses concitoyens, mais de haïr l'ennemi. Hein, c'est-à-dire que l'amour du prochain ne va pas jusqu'à aimer tout le monde. Hein. Bon. Et il faut se constituer en état. Ce qui compte, ce qui est important pour Moïse, c'est que dans l'état règne la paix, par contre, entre les concitoyens. C'est ça qui est important. Que l'amour du prochain va permettre de réguler, en quelque sorte, la vie sociale. La religion, elle joue un rôle positif si elle n'est pas intolérante à l'égard, enfin, si elle ne produit pas de la violence entre les individus. Eh bien, la religion, elle peut pacifier les mœurs. Bon. Mais, pour Moïse, le commandement de l'amour du prochain se limite, au fond, aux concitoyens. C'est Jésus qui va changer, en quelque sorte, le sens du commandement, mais parce que, explique Spinoza, on est dans une période où l'État hébreu est en pleine déliquescence. Et effectivement, à ce moment-là, là, il faudrait passer un peu de temps là-dessus, mais il montre que, à ce moment-là, l'amour du prochain va consister, au fond, à ne pas résister par la violence à la violence, tant à joue. Hein? Bon, mais alors, il dit pas que c'est un progrès, forcément, hein, Spinoza. Ça montre aussi que on est dans une période noire pour les Juifs et que, justement, ils ne disposent plus d'un État. Or, au fond, une vie véritablement humaine, elle ne peut vraiment s'épanouir que dans le cadre d'un État. Et bon, c'est très intéressant, hein, la lecture qu'il fait de la Bible, hein, là-dessus. Et alors, il est proche, il est juif, il a lu, bien sûr, mais en fait, c'est comme beaucoup de marins, il a été coupé de ses racines. D'une certaine manière, il a fallu qu'il les reconquière. Hein. Donc il a fallu qu'il lise les textes en hébreu, il a fallu qu'il réapprenne l'hébreu. Bon, par la synagogue, il a pu effectivement réapprendre tout cela, en partie. Mais en même temps, il est très lié au milieu protestant libéraux. Hein. Ses amis sont des collégiens. Hein. Ce sont des chrétiens libéraux qui sont hostiles à toute forme de clergé, en fait, hein. Anticléricaux, si on peut dire, hein. Et donc quand il écrit la Bible, il s'adresse plus à des chrétiens tout de même, hein, qu'à des juifs, vous voyez, parce que c'est par exemple l'exemple que j'ai cité au départ, hein, vous voyez bien, quand il s'étonne du spectacle que donnent les chrétiens, c'est les chrétiens dont il parle, hein, vous voyez. Et donc, le danger, on voit bien que le danger qu'il craint, enfin, c'est celui de l'hégémonie des calvinistes orthodoxes. Hein. C'est ça qui menace Amsterdam. Parce que les calvinistes, hein, ils ne sont pas plus gentils que les catholiques, hein, parfois. Vous voyez ? Oui ?
Il est né.
À Amsterdam.
Spinoza, il est né à Amsterdam.
Bien sûr. Il a toujours vécu en Hollande. Ce sont ses ancêtres qui viennent du Portugal. Son grand-père. Il n'a jamais vécu ailleurs. Hein. Mais bien sûr que l'histoire qui s'est déroulée les siècles précédents, elle est là. Hein. Elle a marqué les Juifs, hein, c'est sûr. Hein. Bon, alors, c'est vrai qu'ils vont jouir tout de même d'un certain climat de liberté qu'ils ne pouvaient pas rencontrer ailleurs, en Hollande. Hein. Mais ils prennent, alors la synagogue fait très attention surtout à se faire bien voir, tout de même, par les autorités calvinistes, hein, ils essaient de composer tout de même avec les calvinistes orthodoxes. Hein. Alors, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop tout de même laisser certains intellectuels comme Uriel d'Acosta, par exemple, dire des choses absolument abominables, parce que, vous vous rendez compte, Uriel d'Acosta, il va jusqu'à dire que il n'y a pas d'immortalité de l'âme, des choses pareilles. Enfin, donc, bon, déjà, ça dérange les Juifs, mais ça pourrait aussi déranger les chrétiens, vous comprenez. Hein, donc, il faut tout de même éviter que ça déborde. Hein, et le fameux Uriel d'Acosta, eh bien, il va être excommunié 3 fois. Bon, et la 3e fois, ça va être tellement horrible qu'il va se suicider après. Lui, Spinoza, ça ne gêne pas trop. C'est celui qui résiste le mieux. Parce que d'une certaine façon, il a déjà une conception, il est déjà lancé sur une sorte de réflexion philosophique qui, finalement, au bout du compte, fait qu'il ne va pas, trop vivre de manière malheureuse les événements, les punitions qui lui sont infligées. Bon, simplement, ce qui est embêtant, c'est qu'il doit fuir Amsterdam. Mais il a toujours veillé scrupuleusement à rester libre. On lui a proposé, à la fin de sa vie, enfin, on pouvait pas savoir que c'était la fin de sa vie, on lui a proposé d'être professeur dans une université allemande, bon, mais il a refusé parce que il pensait que ça risquait de le mettre sous la dépendance d'un certain nombre d'autorités. Tenait à sa liberté. Pour ça, il préférait polir des vers, vous voyez, et puis avoir des amis très précieux, des grands amis très précieux qui, grâce auxquels, effectivement, son œuvre a pu être conservée, parce qu'il est sûr que si certains avaient pu mettre la main sur ses œuvres, elles auraient très vite été brûlées. Hein. Parce que Spinoza, c'était même Leibniz, qui était tout de même un éminent penseur, un grand philosophe, Leibniz, bon, qui est un chrétien, quand il parle de Spinoza, il ne le nomme pas. Dit un certain auteur. C'est Spinoza, c'est le diable. Vous voyez, et le premier qui lui rend un hommage, et je vous en ai parlé cette année, c'est Bayle, à la fin, qui va vivre lui aussi en Hollande, hein, à La Haye, non, à Rotterdam, je crois, et qui écrit un dictionnaire philosophique. Une œuvre gigantesque, mais tellement gigantesque qu'elle ne peut pas être publiée, et où il consacre un article entier à Spinoza, et c'est à travers cet article qu'on a fait connaissance de la vie de Spinoza. Bon, alors évidemment, Bayle ne partage pas les positions de Spinoza, il le considère que c'est un athée, bon, il a une idée, peut-être discutable de la philosophie de Spinoza, mais vous voyez, il le présente, il donne quelques aperçus sur l'existence de cet homme éminent, et il reconnaît que c'était un athée vertueux. Hein, c'est le mythe de l'athée vertueux. Vous savez, le débat qui a eu lieu au XVIIIe siècle, savoir est-ce qu'un athée peut être vertueux. Oh non, évidemment. Et bon, et vous voyez, Locke, par exemple, considérait qu'un athée ne peut pas être vertueux. Est-ce que vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, hein? Bon, c'est quelque chose qui n'a pas peur de Dieu. Oui, comment peut-on lui faire confiance? Bon, ou alors Kant aussi ne cesse de revenir aussi à l'exemple de Spinoza, qui était athée pour agir moralement. Il n'y a peut-être pas besoin, on n'a pas besoin de croire en Dieu, mais il n'empêche que si on ne croit pas en Dieu, on est malheureux tout de même, hein, on est désespéré. Vous voyez, il y a tout un débat autour de la figure de Spinoza. Donc c'est un philosophe. Il est mort à 44 ans, très jeune. Des questions encore, si vous voulez, non? Il était contemporain de Rembrandt, pour situer les choses. Hein? Mais probablement ne se sont-ils jamais rencontrés. Si, encore une question, ou sinon on va pouvoir considérer que la séance est close. Voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous donne rendez-vous au 14 juin.